l'histoire des paradis fiscaux, le fait que, bon, je pense que, enfin, dès que, du temps des Phéniciens, ou peut-être encore avant, dès qu'un système politique a inventé, ou un seigneur a inventé l'impôt, il y a certainement des malins qui ont inventé le fait de ne de pas payer l'impôt. Hein. Ça a dû être très rapide. Bon. Et puis, il y a certains qui ont dû aussi dire, chez moi, dans ce bout de territoire-là, on ne paiera pas d'impôt pour des raisons économiques. Et notamment, je peux peut-être vous souvenir certains et certaines de vos livres d'histoire de l'école communale avec la Compagnie des Indes, avec les comptoirs. Bon, ça a été aussi des colonies en Inde, Pondichéry, Mahé, Karikal. Bon, l'Angleterre, on avait un paquet. L'Espagne, bon, tous les pays qu'on veut donc coloniser la planète, hein, pour faire du commerce sur les côtes africaines, pour aller en Inde. Donc il y avait des comptoirs français, espagnols, portugais, britanniques, où enfin donc les pirates au départ avec les curés, enfin l'armée et puis le pognon disaient ça appartient au roi de France, très bien, ou bien au roi d'Angleterre, à Gênes ou à Venise. Et puis le roi de France disait en échange de ça, sur ce bout de territoire là il n'y aura pas d'impôt, et donc les commerçants de Nantes, de Bordeaux, des ports français, les armateurs pouvaient faire escale sur ces territoires là se faire du pognon, éventuellement il y avait quelques retombées économiques, et c'était hors impôt, c'était le début des territoires hors impôt, des zones franches, pour des raisons économiques, aussi des raisons de développement du système économique et financier sur la planète, donc pour la France, pour l'Angleterre, pour l'Espagne, c'était ça. Donc ça a été, pendant quelques siècles, ça a été ça. Donc l'idée de zone franche, elle n'est pas récente. Ensuite, après la guerre de 14 et avant la guerre de 40, donc notamment pour financer la Première Guerre mondiale, l'Allemagne, puis ensuite la France. Donc il fallait payer les canons, aux industriels qui faisaient les canons. C'était les contribuables français d'un côté, les contribuables allemands qui payaient. Et puis les deux pays ont inventé l'impôt sur le revenu. Donc c'est une création assez récente dans l'histoire budgétaire et fiscale française ou allemande. Et donc les gens de l'époque qui allaient devoir payer un impôt sur leur revenu trouvaient que c'était du vol. On leur extorquait leurs sous. Et certains ont donc essayé d'échapper en tout ou partie à l'impôt sur le revenu en Allemagne ou en France. Et des banques suisses se sont proposées pour planquer le pognon que ces riches-là de l'époque ne voulaient pas déclarer au fisc français. Et des banques suisses se sont donc spécialisées dans le secret bancaire après la guerre de 14-18. Avec comme première clientèle donc les Allemands et les Français. Quand le régime nazi s'est installé en Allemagne, donc là c'était... pour les gens qui étaient menacés, qui ont d'ailleurs un grand nombre fini dans les camps de concentration, les banques suisses ont proposé de ramasser les fortunes en garantissant l'anonymat. Et je crois que c'est connu du grand public qu'après, les héritiers de ceux qui étaient, quand il y en avait, de ceux qui ont été, qui sont morts dans les camps de concentration, ont eu un mal fou à ce que les banques suisses lâchent l'argent parce qu'ils s'étaient gardés pour eux, pour elles. Hein. Donc ça, c'est un peu connu du grand public. Donc la Suisse a été, à ce niveau-là, un des premiers à se mettre à s'organiser au niveau bancaire, au niveau secret, pour amasser certaines sommes d'argent et le cacher aux pays voisins. Quoi. Et puis avec notamment le développement des pétrodollars, des pays gagnant des sommes importantes et ne sachant plus quoi faire, parce que notamment ils ne redistribuaient pas à leur population, donc des particuliers immensément riches, les réseaux bancaires internationaux ont eu à leur disposition des sommes financières énormes. Et puis donc il a été nécessaire que les réseaux bancaires ont voulu que ces sommes-là échappent à l'impôt, qu'elles fructifient encore tout en échappant aux impôts. Et globalement, donc, c'est l'histoire que les réseaux bancaires importants, les places financières plus importantes, Francfort avec le Luxembourg, la City avec Jersey et Guernesey, les USA avec bon nombre de paradis fiscaux des Caraïbes, ont été spécialisés en secret bancaire, immunité judiciaire, paradis fiscal. Bon. Donc, des territoires qui sont plus ou moins télécommandés par les principales places financières mondiales. Quoi. Et la France, elle a, notamment depuis 2 ans et demi, 3 ans, elle a Saint-Barthélemy et Saint-Martin, qui sont deux petites îles qui politiquement dépendent de la Guadeloupe, qui est un département d'outre-mer, donc qui est la France aux Antilles. Hein. La Guadeloupe, il y a donc deux petites îles qui sont Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Et depuis 2 ans, ce sont des paradis fiscaux. Et ils bénéficient d'un système fiscal très dérogatoire, un système fiscal de la France métropole et de la France guadeloupéenne, qui a déjà un système fiscal un peu différent, moins élevé que le système fiscal de l'Hexagone, parce que nous aussi, en Guadeloupe-Martinique, le niveau de vie est plus bas qu'en France métropolitaine. Et donc Saint-Martin et Saint-Barthélemy, là, c'est des paradis fiscaux, en gros, à nous, Français, quoi. Certains territoires, certains paradis fiscaux se sont spécialisés, notamment, c'est assez connu, dans certains domaines. Notamment, il y a Chypre, Malte, qui sont maintenant des membres à part entière des 25 de l'Union européenne, qui sont des paradis fiscaux spécialisés dans les pavillons de complaisance. À savoir que des armateurs peuvent déclarer leur bateau dans ces territoires-là. Ça garantit là aussi l'anonymat. Il y a des sociétés écrans, donc des possibilités de structures juridiques qui permettent l'anonymat. Et puis, quand il y a à chaque fois une catastrophe avec Marée Noire, Erika ou d'autres, quand on arrive certains à soulever le couvercle, ils se rendent compte qu'il y a plein de sociétés écrans qui ont leur siège dans des paradis fiscaux. Les premières sociétés qu'on découvre, c'est souvent domiciliées en Suisse, Luxembourg, Liechtenstein. Bon, c'est assez propre, à Jersey. Et puis ça finit au Barbade, ça finit à Panama, ça finit au Libéria, quand c'est notamment. Donc c'est les territoires qui sont spécialisés dans l'anonymat pour les pavillons de complaisance et les transports maritimes. Savoir qu'aujourd'hui, environ 60% des transports de marchandises se font sous pavillon de complaisance. Et que l'élément, pavillon de complaisance, c'était un élément essentiel du système économique aujourd'hui, quoi. Notamment pour délocaliser, pour faire en sorte que, des pantoufles, des t-shirts, qui ont plus de valeur, qui ont plus de valeur ajoutée, fait en Chine, puissent être consommés en France et aux États-Unis, et sa concurrence, la main-d'œuvre, le niveau des salaires et des charges sociales et des cotisations sociales des pays d'Europe occidentale, par exemple, il faut que le coût du transport soit nul ou quasi nul. Donc la tendance lourde, c'est que de faire en sorte que les marchandises produites en Chine, pour l'instant, arrivent dans les lieux de consommation, que ce soit encore la France, l'Allemagne, l'Europe occidentale ou les États-Unis, avec le bénéfice de la délocalisation venant des bénéfices de différence de coût de main-d'œuvre, ça ne soit pas consommé, bouffé par le prix des transports. Donc une pression très forte sur le prix des transports, d'où conditions de travail, notamment dans la marine, de temps en temps, même à Thalassa, ils en parlent de temps en temps, les navires poubelles, et quand il y a un navire qui s'est... de temps en temps, vous voyez, au Havre, ou sur la côte... à Narbonne, à Sète, à Sète plutôt qu'à Narbonne, des bateaux qui sont là, qui sont abandonnés par les armateurs, et puis les marins sont là 15 jours, 20 jours, 2 mois, 3 mois, sans être payés, pas avoir de sous pour rentrer chez eux en Afrique, au Pakistan, ou... en Afghanistan, on ne sait où, parce que la société est partie, il n'y a plus rien. Quoi. Et donc ça, c'est des territoires qui sont spécialisés dans les pavillons de complaisance. Quelques trucs à avoir aussi, par exemple, que les USA ont 2 États, c'est le New Jersey et Delaware, qui sont donc des États comme la Floride ou la Californie, mais donc, qui sont des petits territoires, qui sont spécialisés en paradis fiscaux. Notamment au Delaware, il y avait l'affaire Enron. Je pense que ça vous dit quelque chose. Une société américaine qui était une des plus grosses multinationales qui vendait donc de l'énergie. Elle avait 675 filiales de filiales, 675 dont le siège était établi au Delaware. 675. Elle devait en avoir un paquet ailleurs aussi, mais déjà, rien déjà que 675 au Delaware. Quelques chiffres aussi que j'ai notés, je ne me souviens jamais. Hong Kong, 500 000 sociétés offshore. Les îles Caïmans, 40 000 habitants. 50 000 sociétés offshore, 600 banques. Les îles Caïmans, 5e place bancaire après Londres, Hong Kong, New York, Tokyo, avant Paris. Les îles Caïmans, place bancaire et financière avant Paris, quand même pas avant Francfort. Énorme, quoi. 40 000 habitants. Donc, c'est évident que le pognon, c'est pas... Et les gens des îles Caïmans, éventuellement, ils n'en profitent pas toujours. Parce que c'est ceux qui avaient, je fais une parenthèse, par les camarades de Jersey, on s'est rendu compte, on a appris que les gens, à Jersey maintenant, ils sont colonisés par pas mal de banquiers, de financiers, de conseillers fiscaux, juridiques, qui viennent de Londres, enfin en avion, aller-retour dans la journée, ou qui ont acheté des terrains. Donc il y a du pognon. Les cultivateurs ont été expropriés. Parfois, ils ont trouvé des sous en vendant leur terre. Mais enfin, comme terre agricole, c'est devenu des terrains de golf. Et les gens de Jersey ne sont plus chez eux. Quoi. On les visite. Ils sont les indigènes du coin. Ils ont été colonisés par les banques de Londres, quoi. Et je pense que je ne suis jamais allé aux îles Caïmans, mais ça va être certainement pareil pour une grande partie de la population. Ou alors, les femmes sont femmes de chambre, puis les hommes, valets de chambre dans les hôtels pour les gens, pour les conseillers fiscaux et financiers, pour les banquiers qui ont établi des sièges de sociétés offshore là-bas aux îles Caïmans. Donc, c'est pas forcément la population locale d'origine qui, même assez rarement, qui en bénéficie. Donc, quelques informations comme ça pour montrer l'énormité de la chose. Conséquence de l'existence et du développement des paradis fiscaux. Aussi, savoir aussi que avec la liberté de circulation des capitaux, les capitaux circulaient bonbon sur la planète, mais ça, c'est pas comme la pluie, c'est un phénomène assez naturel. C'est des décisions politiques prises pays par pays qui ont fait qu'à partir de Thatcher et de Reagan, Reagan aux États-Unis, Thatcher en Grande-Bretagne, et puis donc les idées libérales qui ont progressivement colonisé la planète et colonisé donc les classes politiques dominantes dans pratiquement tous les pays. Et puis après, quand le mur de Berlin est tombé, les Américains ont envoyé leurs universitaires et du pognon pour coloniser donc, et privatiser les ex-pays de l'Est, qui sont toujours à l'Est, mais qui sont politiquement tout à fait différents de ce qu'ils étaient avant. Et souvent, c'est la même classe politique à 80% qui gérait le pays, qui s'appropriait le pays. C'est en gros les mêmes ou leurs enfants qui s'approprient le pays, avec le libéralisme dans les pays, l'Europe de l'Est. C'est à partir des années 75-80 que, progressivement sur toute la planète, il a été décidé, voté, que les capitaux pourraient circuler librement sur l'ensemble de la planète. Nous, en France, c'est 89-90, donc on avait comme Premier ministre Rogard, comme ministre des Finances, Bérégovoy. Et je me souviens qu'à l'époque, moi, j'étais syndicaliste aux impôts, on avait vu Bérégovoy en lui disant « Mais vous décidez de ça au niveau européen et au niveau mondial, sans en préalable harmoniser la fiscalité des capitaux. » Pas de panique, Gorgochon, ça va se faire progressivement, ça s'est pas fait, bien entendu. Et maintenant, les capitaux vont se placer là où les... Enfin, c'est pas le seul critère, mais un des critères dominants, c'est où on pourra faire le plus de pognon, donc notamment où les salaires le coût salarial, entre guillemets, salaire et cotisation sociale est plus bas. Et après, une fois qu'on a fait le plus de bénéfices, où la pression fiscale sera la plus réduite, donc où il y a le moins d'impôts possible. Et donc on délocalise, bien entendu, et c'était prévu dans le programme. Certains, de temps en temps, crient à leurs frais en disant c'est une catastrophe, c'était délibéré dès le départ. 89-90, c'est donc les capitaux circulent librement sur la planète sans contrôle aucun, pour s'investir, pour faire de la rentabilité. Et donc les paradis fiscaux donc se sont développés, leur développement s'est accéléré donc depuis les années 80 avec cette liberté de circulation des capitaux, puisque maintenant la finance peut encore plus facilement qu'avant être mobile et créer du pognon.